mode d'emploi.
Bonsoir à toutes et tous, vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. La météo du jour nous impose de laisser les fenêtres ouvertes, donc si vous entendez nos voisins, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, nous sommes bien donc le quatrième vendredi du mois et c'est l'équipe de la quatrième dimension qui investit l'émission Mode d'emploi avec au micro Mathieu et Damien et Claude aux manettes. L'émission de ce soir est consacrée aux réformes successives de l'université. Plus de 10 ans après la loi LRU et les mobilisations du monde universitaire et de la recherche, et après plusieurs réformes dont la dernière Parcoursup, où en est-on vraiment ? Pour discuter de ce sujet, nous sommes ravis de recevoir Denis Orcel, co-secrétaire de la Fédération Sud Éducation. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Benjamin Potevinck, membre du Bureau National de l'UNEF. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous pouvez appeler l'émission au 01 40 05 06 10 pour intervenir à tout moment sur le thème de ce soir. Vous pourrez également télécharger cette émission sur notre site Mode d'emploi, mais également la réécouter en rediffusion sur Radio Fréquence Paris Pluriel mercredi prochain à 7h.
Bonsoir à tous. On va pas refaire toute la litanie des réformes universitaires depuis une cinquantaine d'années et surtout depuis 1968 où les universités ont été recréées, mais on va peut-être commencer par la 2007, la loi Pécresse, qu'on appelle aussi la loi LRU, loi liberté et responsabilité des universités. Benjamin, est-ce que tu peux nous expliquer quels ont été les grands principes et les grandes mesures de cette réforme qui est un peu la première d'un mouvement général qu'on va retrouver dans les 10 années suivantes.
Alors si je ne fais pas d'erreur, le principe de la loi LRU, ça a été de en gros donner donc plus d'autonomie aux universités, c'est ce qui est dit, mais globalement, avant, les universités n'étaient pas propriétaires de leurs bâtiments, par exemple. Ce n'était pas elles qui avaient directement la gestion propre de leur budget.
C'était centralisé au niveau des ministères.
C'est ça. Et au final, aujourd'hui, elles ont plus de responsabilités à ce niveau-là, ont pu devenir, pour celles qui en ont fait le choix, et c'est la grande majorité, devenir propriétaires, donc que l'État cède les bâtiments qui lui appartenaient et qui étaient occupés par l'université. La gestion de son budget est beaucoup plus décentralisée au niveau des universités. Elles ont plus de pouvoir qu'avant. Pour résumer, si je peux dire.
Denis, vous voulez peut-être compléter ?
Oui, derrière la notion d'autonomie, en fait, et la liberté et les responsabilités qui ont été données aux universités au travers de cette loi, cette notion d'autonomie, en fait, elle donne un budget global à l'université, masse salariale comprise, ce qui a permis pas mal de dérives. Notamment, les universités, pour arriver à boucler leur budget aujourd'hui, c'est un fait, dans la réalité, sont obligés de geler des postes, c'est-à-dire on ne supprime pas au niveau du ministère des postes de fonctionnaires, mais pour que les universités puissent fonctionner, elles gèlent des postes. Ça veut dire qu'elles ne recrutent pas sur ces postes et elles utilisent cette masse salariale pour le fonctionnement de l'université. Donc voilà, c'est un biais de cette autonomie. Et en fait, depuis l'autonomie des universités, les universités n'ont jamais été autant dépendantes de la volonté des gouvernants, puisqu'en fait, elles sont pilotées par le nerf de la guerre, qui est l'argent.
Mais alors, comment vous l'expliquez ? Parce que sur le papier, ça peut paraître une belle idée, enfin, de donner plus d'autonomie à un établissement public.
Dans l'esprit des services publics, le service public, il est rendu par des fonctionnaires qui, de par leur statut, ont une garantie à la fois d'indépendance, de neutralité. Et du coup, cette autonomie, elle s'entend par le terme de service public. Donc, un service public, il n'est autonome que s'il est financé par de l'argent public et que s'il est rendu par ces gens qui sont des fonctionnaires. Alors, aujourd'hui, ces fonctionnaires, on peut considérer que ça n'est qu'un coût et que ce sont des nantis qui profitent de beaux avantages. le salaire à vie et des choses comme ça. Mais en fait, derrière ces principes, il y avait la notion d'autonomie qui était déjà un filigrane, mais une autonomie réelle. Aujourd'hui, un établissement public qui rend un service public n'est plus du tout autonome dès lors qu'il était obligé d'aller chercher ce qu'on appelle des financements propres, des fonds propres, qui sont souvent faits sur de l'argent qui n'est pas très propre. Et du coup, l'autonomie se perd comme ça. On inféode de plus en plus au travers le manque de financement des établissements publics aux besoins du monde de la finance.
Justement, cette recherche de ressources propres, cette autonomie budgétaire, comment ça se concrétise? Quel argent, où va chercher cet argent dans les universités?
Alors, où est-ce que l'université va les chercher? Globalement dans des fonds privés, c'est-à-dire enfin, des entreprises qui investissent dans l'université ou autre, et aussi l'argent des étudiants. Récemment, on a eu plusieurs réformes, mais notamment la création d'une taxe qui est la CVEC, cotisation vie étudiante et de campus, alors que certains étudiants ne profitent même pas, notamment les doctorants, de la vie étudiante, mais la payent quand même, et c'est 90 euros, 91 cette année, et donc à payer tous les ans, et c'est des frais d'inscription. En gros, une taxe en plus, quoi, pour les étudiants. Et aussi, la hausse des frais d'inscription des étudiants étrangers hors Union européenne, qui, du coup, ont une multiplication par 15, 16 de leurs frais d'inscription.
Par 15 sur, là, d'une année à l'autre.
16, même en arrondissant 16.
16, ok.
C'est assez phénoménal.
Et ça, c'est réparti de façon homogène, ou est-ce que les frais, parce que du coup, si elles sont autonomes, elles peuvent. Se donner entre guillemets un ticket d'entrée comme elle le souhaite. Est-ce qu'il y a des différences de coûts en fonction des universités, ou est-ce que les tickets sont les mêmes pour
Est-ce qu'on est toujours sur des frais d'inscription à peu près homogènes d'une université à l'autre dans le pays, ou il y a des grosses différences d'une université à l'autre?
Les frais des diplômes nationaux sont fixés par arrêté. Okay. Donc les diplômes nationaux ont un prix identique à quelle que soit l'université dans laquelle on les fait en France. Et ça, c'est un acquis. C'est un acquis. Alors, du coup, qu'on est en train de perdre, parce qu'au travers du plan Bienvenue en France, dont parlait Benjamin, on est en train de faire germer l'idée que un diplôme, c'est un prix, et que si on n'investit pas sur ce qu'on appelle aujourd'hui le capital humain, on dévalorise les diplômes. Et au travers de l'idée du plan Bienvenue en France. La logique qui a été donnée, c'est que pour mieux accueillir les étudiants étrangers, on n'arrive pas à avoir suffisamment d'argent public. Donc, le mieux serait de les faire contribuer à la hauteur de un tiers du coût de leur diplôme. Du coup, c'est comme ça qu'on a multiplié les frais d'inscription par 16. Mais on fait accepter l'idée qu'un diplôme a un coût. Ça veut dire qu'on ouvre la porte pour la généralisation de l'augmentation de tous les diplômes.
Un diplôme a un coût, et du coup, ça crée une inégalité, finalement.
Ça crée une...
Parce que le coût n'est pas le même en fonction de l'étudiant.
Ça crée une inégalité, et puis on marchandise, on fait du diplôme une marchandise, et du coup, ce qui ne sera pas cher n'aura aucune valeur, et un diplôme qui ne sera pas cher n'aura aucune valeur sur le marché du travail, et seuls les diplômes onéreux permettront aux jeunes d'aller se vendre sur le marché du travail. Alors, j'utilise volontairement des mots qui me font un peu mal à la bouche. Marché du travail, pour moi, ça n'existe pas. Le travail, c'est autre chose, c'est une autre notion.
Peut-être revenir, parce que là, on parlait d'étudiants, mais juste sur le modèle économique des universités liées à l'autonomie. C'est quoi le profil un peu type des dotations privées, enfin, parce que du coup, et quelles sont les contreparties, finalement? Parce que j'imagine qu'un privé... une grosse entreprise privée, un mécénat privé ne vient pas sans contrepartie financer une université.
Sur les profils, ça dépend en vrai d'une université à une autre et des territoires. Il peut y avoir des banques. Ça dépend aussi des formations qui sont dispensées par l'université. Hein. Si une université n'a pas de... pour simplifier un peu, faculté de droit, on va dire, il n'y a pas forcément d'intérêt à ce que y ait des cabinets d'avocats qui investissent, par exemple, ou je sais pas, des banques, par exemple, pour les questions économiques. Mais du coup, ça c'est assez varié, et ça dépend beaucoup des territoires et des entreprises sur le territoire. Moi, je pense à Orléans, par exemple. Je suis étudiant en biologie, et on a beaucoup d'entreprises de cosmétiques qui investissent aussi, notamment parce que elles y ont un intérêt pour les étudiants en master.
Okay, pour recruter facilement, pour orienter un peu les programmes en fonction de leurs problématiques.
Est-ce que Bayer est donateur à l'Université d'Orléans?
On n'a pas aussi, autant de détails sur les budgets.
Et vous avez une idée de ce que représente aujourd'hui le financement public et le, par rapport au financement privé
sur vos universités,
même si c'est différent d'une université à l'autre?
Alors c'est très difficile à savoir, parce qu'en fait le budget d'université c'est aujourd'hui quelque chose d'assez énorme. Ouais.
Et c'est plein de budgets différents. Voilà.
Et c'est extrêmement détaillé parce qu'il y a des conventions qui sont signées sur la recherche, donc sur une certaine recherche, sur certaines thématiques, sur certaines formations et dans certaines thématiques. Donc c'est très difficile d'avoir. Alors il faudrait c'est sans doute faisable, hein, mais il faudrait aller éplucher les comptes de chaque université et voir ce qui est effectivement financé. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, un financement public pour une recherche publique, ça veut dire liberté d'aller faire la recherche que l'on souhaite. Et dès lors qu'on a besoin ne serait-ce que de 5% de financement privé, ben on est déjà assujetti aux intérêts du privé. Et en fait, c'est tout l'inverse de ce que devrait être un service public. Donc même si c'est pas des sommes majoritaires sur le budget de l'université, dès lors qu'on a besoin de cette somme d'argent pour boucler le budget, on est pris au piège. On n'a plus la liberté académique.
Mais c'est ça, c'est sous couvert de principe d'autonomie, les universités deviennent dépendantes de budget privé.
C'est la même notion que quand on dit à un jeune, il faut que tu deviennes entrepreneur de ton avenir. C'est exactement la même chose. En fait, on reporte la responsabilité sur le jeune de réussir ou d'échouer. Et on dit que ça, c'est une liberté. Et on ne mesure pas les moyens qu'on offre à ce jeune pour tracer sa voie et s'émanciper. Et aujourd'hui, on est vraiment dans cette logique où on a abandonné l'idée de l'émancipation par les savoirs et par la connaissance pour quelque chose de très dogmatique. On a aujourd'hui un cahier des charges des entreprises qui nous disent on a besoin de jeunes formés pour faire ça.
On répond à la loi du marché.
À la loi du marché. Ouais.
En 2013, il y a une autre loi qu'on appelle loi ESR ou la loi Fioraso. Qui est un peu dans la même un peu dans la continuité, mais il y a des aspects notamment sur les fusions d'établissements, sur des rapprochements, fusions, acquisitions entre les universités, notamment sur des territoires proches. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot?
Ouais, rapidement. C'est cette loi, en gros. Il y avait déjà des modes de rapprochement avant entre universités pour qu'elles travaillent en commun, qui s'appelaient les PRES. À la suite de cette loi, on a ce qu'on appelle les COMUE, communautés d'universités et d'établissements, qui regroupent des universités, des écoles aussi, pas que des universités, et qui, en gros, sous couvert de dire il faut que les universités travaillent ensemble sur un même territoire, sur la formation et la recherche, a mis en place une instance au-dessus des universités qui est aussi un budget qui a aussi un poids et qui a aussi eu tendance à être utilisé comme moyen pour forcer des établissements à fusionner et
parce que pour avoir une idée, c'est une échelle régionale, départementale
Échelle régionale, généralement.
D'accord.
Il y a eu des COMUE qui avaient une échelle suprarégionale. Je pense à la COMUE dans laquelle l'Université d'Orléans, mon université, était, par exemple, qui partait de Poitiers en regroupant La Rochelle, pardon, qui regroupait du coup Orléans-Tours avec Poitiers et Limoges au centre. Donc qui... Des établissements qui en gros prenaient une bonne partie de la France. Cet établissement a éclaté en plusieurs COMUE et situation particulière aujourd'hui, mais les COMUE sont un peu sous cette forme là de regroupement.
Okay. Non mais du coup c'est pour être sûr d'avoir bien compris, du coup s'ils regroupent 5-6 universités de la région centre, on va dire, sur les sujets, leur rôle concret c'est ils ont un poids sur le budget de chacune des universités qui vont regrouper, ou sur les, leurs objectifs, le nombre d'entrées
Non, pas, enfin, pas autant, puisque chaque établissement, chaque université garde son autonomie. Par contre, sur certains sujets, effectivement, elles sont contraintes. Et par exemple, sur certains diplômes, notamment le doctorat, certaines COMUE délivrent le doctorat et les universités ne le font plus.
Ok.
Aujourd'hui.
Mais c'est de la mise en, mise en commun de compétences, non ? Enfin, à la base, enfin, je pose la question, je sais pas, peut-être que du
alors,
côté
elles ont été vendues pour mettre en place une politique de site en termes de recherche et de formation. Donc ça c'est l'enveloppe. Mais derrière, souvent les communes sont aujourd'hui soit des coquilles vides parce que on est dans un monde très concurrentiel entre établissements et les universités ne souhaitent pas déléguer aux communes. Trop de responsabilités ou trop de pouvoir, elles veulent pouvoir garder leur liberté. Et du coup, on a aujourd'hui beaucoup de communes dont le seul rôle est de gérer soit la dévolution du patrimoine, soit les écoles doctorales, mais avec un contrôle de chaque université pour les écoles doctorales qui sont dans son. Et du coup, ça fait un paysage universitaire. Qui est très très compliqué à appréhender. Aujourd'hui, je vous mets au défi de faire un sondage dans une université et de trouver une majorité de personnel qui puisse vous dire clairement à quoi sert une commune.
Bah, c'était un peu ma question en fait. Voilà. C'était à quoi sert.
Et au-delà de ces communes, il y a eu des fusions d'universités, surtout dans les grandes métropoles où il y avait deux ou trois universités. Il y a beaucoup de villes qui se sont retrouvées avec une université.
Alors sur les histoires de fusion entre établissements, en fait, en même temps que la loi LRU, il y a eu un plan de financement qui s'appelait l'opération Campus, où il a été fortement recommandé aux établissements de chercher à mutualiser pour faire des économies sur les moyens. Et on entendait par moyens en services centraux, moyens humains, moyens financiers. Donc, dès 2007, l'idée de fusion entre établissements était un jeu. Donc ça a mis pas mal de temps parce que c'était plus souvent sous le mode OPA hostile.
Gros mange.
Voilà. Donc il y a des petits qui ont tenté de se préserver. Il y a quand même des gros qui ont réussi à manger pas mal de petits. Oui, il y a des villages de Gaulois. Ouais,
ok.
Par endroit.
Mais il y a eu quelques aspects positifs quand même dans ces fusions, selon vous ?
Alors, moi, je n'ai clairement aucun retour positif d'aucune université autour des fusions. Parce que, au bout du compte, l'établissement est beaucoup plus compliqué à gérer, donc il revient plus cher. On n'a rien mutualisé.
Ça ressemble un peu aux fusions de région.
Et on se retrouve aujourd'hui à devoir gérer cette autonomie qui nous est donnée, où on doit, à moyen constant, par rapport à ce qui était les moyens de 2007, ils ont très peu augmenté dans les universités, à moyen constant, assouvir de nouvelles missions et gérer un établissement qui est mastodontique.
Et aussi, sur les étudiants, ça a aussi des conséquences. Quand on regarde, par exemple, plusieurs universités qui sont espacées, notamment hors région parisienne, hors Île-de-France, où quand on se retrouve avec deux établissements qui fusionnent, avec une volonté de mise en commun aussi des formations, c'est aussi des étudiants qui, parfois, vont devoir aider des personnels
dans la ville,
se déplacer d'une ville à une autre.
Sur un même diplôme.
Pour un même diplôme.
Des cours à Tours et des cours à Orléans, par exemple.
Okay, donc, d'un point de vue économique, écologique,
pas
ça
pour
a
les
sens,
pas pour les étudiants, en tout cas.
Oui, non, mais oui.
Et nier personne.
J'imagine.
Avant d'aborder la dernière loi en date, la loi ORE, notamment le Parcoursup, on va faire une petite pause avec Eddie Mitchell, ma maîtresse d'école.
Vous Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Vous venez d'écouter Ma maîtresse d'école d'Eddy Mitchell. Alors, aucun lien avec la présidence de la République, mais plutôt avec le sujet du soir, les réformes de l'université. Donc, on échangeait globalement sur le fait que finalement, plus d'autonomie voulue par le gouvernement entraînait plus de dépendance d'un point de vue universitaire. En mars 2018, il y a une loi importante qui est passée, la loi relative à l'orientation de la et la réussite des étudiants, pardon, qui comprend notamment le sujet de Parcoursup. Peut-être avant de rentrer en détail, finalement le avoir un peu le contenu général de cette loi. Alors peut-être Denis pour commencer.
Ouais. Alors la loi c'est mars 2018, mais l'historique de la loi c'est on s'est retrouvé en juillet 2017. Avec APB et des tirages au sort qui ont dû se tenir pour quelques dizaines de filières de l'enseignement supérieur.
Avec un échec, on peut dire.
Alors, donc, des tirages au sort pour quelques dizaines de filières d'enseignement supérieur, quand on sait que c'est plus de 13 000 filières d'enseignement supérieur. Donc, ça a été quelque chose de très organisé de la part de la ministre Vidal, qui a crié au gâchis, au scandale et au fiasco d'APB qui n'orientait pas bien les jeunes. Et en fait, ils se sont saisis de ça tout l'été. Ils ont organisé le scandale tout l'été pour lancer de grandes concertations dès le mois de septembre, pour changer cet outil d'affectation dans le supérieur. Et au travers de l'outil d'affectation, en fait, en participant aux concertations, on s'est rendu compte que il y avait quelque chose de très dogmatique. La CPU poussait très fort pour pouvoir sélectionner les meilleurs étudiants et pouvoir mettre ses taux de réussite en avant. Et en fait, on a les prémices de la sélection à l'université, chose qu'on a réussi à défendre depuis 68. Pour nous, l'université, c'est typiquement un établissement qui doit rester libre, ouvert à toutes et à tous, et qui doit être un outil d'émancipation. Et en fait, au travers de Parcoursup et de la loi ORE, c'est vraiment ce qui est attaqué. On transforme nos universités en quelque chose de tout à fait utilitariste et on change totalement le paradigme. On va en discuter, je pense, sans véritable résultat positif, en tout cas pour l'affectation de nos jeunes aujourd'hui.
Et qu'on comprenne bien, ce principe de sélection, il n'existait pas dans APB. Et APB était tout récent, en fait. C'était la première année où ça a échoué, où ça existait depuis plusieurs années.
Non. Le tirage en sort a été mis en place depuis plusieurs années déjà, je crois 3 ans. Ça datait de 2011 ou 12, je crois.
Donc ça, c'était par rapport à un trop grand afflux de candidats, par rapport aux formations.
Sur certaines formations, notamment les filières de STAPS, donc activité physique et sportive. Et donc les formations ne pouvaient pas accueillir autant de monde et il n'était pas légal de sélectionner à l'entrée de l'université. Et la seule alternative qui a été trouvée, qui n'était pas légale non plus en soi, c'était le tirage au sort.
Comme en Antiquité.
Comment ?
Comme dans l'Antiquité, il faisait le tirage au sort sur le citoyen qui allait voter.
Mais au final, le tirage au sort était peut-être moins scandaleux que ce qui se passe aujourd'hui sur Parcoursup. Parce que aujourd'hui, on est devant une grosse inconnue. Ce sont tous les algorithmes qu'utilisent les établissements pour opérer la sélection.
Ça me paraît d'être très transparent. Oui.
Ouais, c'est totalement opaque. Et puis, pour arriver à départager des jeunes sur des notes du bac, sur un dossier, on se retrouve avec des nuages dans lesquels il faut arriver à opérer une sélection. Mmh. Et des fois, sur la note que va donner l'algorithme, à 0-1 point près, je crois qu'on est même descendu à plusieurs chiffres derrière la virgule pour départager. Du coup, c'est tout à fait aléatoire. Et ça revient à un tirage au sort.
Ce qui est totalement contradictoire avec... moi, je me rappelle quand le gouvernement a fait la promotion de Parcoursup, c'était quand même le message de dire que c'était un système beaucoup plus égalitaire que l'admission post-bac. Enfin, du coup, c'est des éléments de langage, mais ils ont sûrement réfléchi au fait que ça soit égalitaire. Enfin, j'imagine, en tout cas, ou pas du tout. Enfin,
ce qui a été avancé, c'est que APB était une machine en soi, et donc il fallait remettre de l'humain, et donc qu'il fallait mettre des commissions avec des personnes, des enseignants dans les universités pour classer les dossiers. Au final, beaucoup trop de dossiers à classer, donc les algorithmes qui sont mis en place mais qui sont totalement opaques, on ne sait pas quels critères... Enfin, on a des idées, des critères qui sont... Les critères sont annoncés, en revanche, on ne sait pas dans quelle mesure ils sont pris en compte. Est-ce que telle note est beaucoup plus importante dans une dans telle matière que dans une matière proche, on va dire, au bac. Il n'y a pas du tout d'informations là-dessus. Plus, il y a aussi des critères supplémentaires aux résultats scolaires qui sont pris en compte. Ce qu'on appelle des attendus, où en fait, tout le monde ne peut pas avoir accès mécaniquement à ses attendus. Socialement, c'est très compliqué. Quand
les activités extrascolaires,
tout ce qui est activité extrascolaire, tout ce qui est diplôme annexe, par exemple le BAFA, c'est pas un diplôme que tout le monde peut avoir. Ça demande un investissement financier aussi de la part des jeunes. Et en soi, ça met en place une sélection sociale sur, enfin très très forte sur certaines filières au final. Et où pour l'instant, que ce soit sur l'impact de la réforme ou sur comment elle s'est mise en place, il y a une opacité complète.
Oui, c'est les mieux armés économiquement peuvent en tout cas
Et qu'on comprenne bien, c'est uniquement pour les premières années des formations, ou c'est pour le niveau L+3, L+4, enfin c'est le niveau licence.
Alors cette année, on voit notamment à Sorbonne Université un nouveau projet qui vient de sortir, c'est-à-dire qu'ils vont mettre en place un mini Parcoursup pour l'inscription en LE2. C'est-à-dire qu'on sélectionne les jeunes en LE1, et puis il y aura des licences un petit peu plus sélectives auxquelles... et du coup, on se dirige vers de l'élitisme.
C'est un parcours sup interne, en fait.
C'est un parcours sup interne. Donc, on avait déjà la sélection en master à la sortie du LE3. Et là, on s'aperçoit qu'on va filtrer, en fait, chaque année et orienter ceux qui sont prometteurs vers des études brillantes, et on va leur offrir un avenir. Et puis, d'autres à qui on va donner un Bac+3. Parce qu'en fait, on mesure des indicateurs. Le taux de réussite d'un diplôme, c'est le nombre de diplômés. Après, le nombre de jeunes qu'on a insérés professionnellement. Et du coup... On va faire un peu comme on a fait avec le bac, faire en sorte que tout le monde arrive à avoir le diplôme. Et puis après, sur la notion dont je parlais tout à l'heure, ces jeunes qui sont entrepreneurs de leur avenir, ce sera de leur faute si ça ne veut pas se vendre sur le marché avec le diplôme qu'on leur a donné.
En fait, c'est assez logique avec le système concurrentiel, quoi. C'est-à-dire que plus vous sortez de diplômé, plus vous êtes
noté. C'est la méritocratie qui prédomine. Après, il y a quand même pas mal de supercheries sur Parcoursup. Quand on est arrivé en juillet 2017, tout le monde connaissait les courbes démographiques. Tout le monde savait très bien que sur les années à venir, et encore pendant 5-6 ans, l'enseignement supérieur devra accueillir, en gros, 50 000 nouveaux jeunes bacheliers chaque année. Chaque année. Et donc, on a un problème de place. On a un problème d'un système qui a dérivé, parce que aujourd'hui les jeunes qui sortent des bacs pro, des bacs techno, avaient vocation à s'orienter vers des cycles courts, BTS, DUT, tout ça. Et ces diplômes-là étant déjà des filières sélectives, où on sélectionnait, se sont tournés davantage vers des jeunes qui sortaient de bacs généralistes, qui prenaient toute la place. Et effectivement, on s'est retrouvé avec un public dans les universités, qui venait à l'université par défaut, et pas par choix, et qui effectivement perdait son temps. Mais la résolution de tout ça, c'était il fallait peut-être créer davantage de places en BTS, en DUT.
C'est ça, finalement. Et
mettre en place des passerelles pour que ces jeunes, une fois qu'ils ont obtenu leur BTS, leur DUT, puissent continuer sur un cycle long.
Et on en revient finalement à la logique de l'autonomie et des baisses des aides financières de l'État, et donc du coup, pas possibilité d'ouverture de classe pour certains établissements. Enfin, j'imagine qu'ils n'ont pas pu ouvrir des classes, donc du coup, il a fallu sélectionner.
On est coincé sur la notion que le service public est un coût et que c'est ce qui creuse la dette. Aujourd'hui, on nous vend cette image-là du service public. Et dans le cas de l'éducation, on pourrait au moins avoir la décence de considérer que ça n'est pas qu'un coût, mais un investissement. Et qu'à un moment, quand on a une jeunesse qui est formée correctement, il y a un retour sur investissement. Et voir les choses plus à long terme que sur du court terme, où on voit que les pays en voie de développement, la Chine notamment, elle a fortement investi sur l'université. Mmh. Elle est en train de construire des universités de partout, bah, parce qu'il y a des jeunes qui arrivent et qu'il faut les éduquer. C'est pas le choix qu'on a fait ici.
Et peut-être avant d'aborder les différentes actions, mobilisations sur l'ARE et sur Parcoursup, toute cette réflexion, que ce soit la mise en place de APB ou Parcoursup, c'est lié quand même à un constat global d'échec, entre guillemets, d'orientation de certains étudiants, voilà, qui, comme vous dites, peut-être n'ont pas trouvé de place ou n'ont pas souhaité poursuivre vers des filières professionnalisantes plus proches du marché du travail et qui se retrouvent à l'université un peu par défaut. Et voilà, et ça représentait quand même un certain nombre d'étudiants. C'est, ça, c'est aussi un constat que tout le monde faisait depuis la massification des effectifs étudiants. Ça correspond quand même à une réalité. Comment vous voyez les choses à l'UNEF?
Oui, il y a un réel problème en vrai d'orientation, ça c'est sûr. Et enfin, ça c'est un constat qu'on fait déjà dès le lycée, enfin même avant, si on remonte déjà au collège. Enfin, n'importe quel lycéen, n'importe quel étudiant ou étudiante ira vous dire que en fait on n'a pas été très conseillé en fait sur notre orientation,
un manque d'accompagnement,
très peu suivi là encore c'est dû à un manque d'investissement. Si on n'a pas assez de conseillers et conseillères d'orientation psychologue dans les lycées déjà, c'est pas parce que il y a trop de jeunes, c'est parce qu'on n'investit pas assez, c'est parce qu'on n'investit pas assez, et ce manque de suivi il perdure aussi au niveau de l'université. Avec un réel accompagnement dans les constructions de projets d'avenir des jeunes, oui, on pourrait permettre à ce que plus de jeunes soient mieux orientés vers des filières qui les intéressent, des formations qu'elles voudraient suivre. Et c'est pas le cas aujourd'hui. Et après, on a des situations comme celle dans laquelle on est, où effectivement, en vrai, la solution miracle qui est présentée au final, c'est la sélection, où en fait on impose une sélection et une augmentation.
Sauf qu'il est difficile pour les étudiants qui ne sont pas sélectionnés de revenir en arrière et de récupérer des filières qu'on ne peut plus suivre quand on a un certain âge. On se voit mal faire un CAP si on a 22 ans.
C'est encore autre chose. La formation tout au long de la vie, c'est aussi une des missions de l'université, c'est-à-dire de continuer à former. Mais pour revenir sur la question de l'orientation et là où au RE et ce qui se passe autour, l'orientation a été une question centrale des négociations, et la seule réponse, ça a été de doubler le nombre de professeurs principaux. Donc ce n'est pas le métier, l'orientation, parce que l'orientation c'est un métier. Et dans le même temps, on a vu
en collège-lycée, vous dire.
En collège-lycée, oui. Et on a vu que dans le même temps, on est en train de fermer les CIO, donc les centres d'information et d'orientation. Donc c'est assez paradoxal. C'est assez paradoxal. Il y a une grosse mobilisation des personnels des CIO aujourd'hui. Il y a une grosse mobilisation dans les lycées, parce que l'année dernière, c'est arrivé un peu au fil de l'eau. C'est-à-dire que la loi qui a été votée en mars 2018, elle s'est mise en place dès le mois de novembre 2017. On avait déjà, on demandait déjà aux universités de faire leurs attendus, de définir leur capacité d'accueil. On nommait un deuxième professeur principal dans chaque classe de lycée. Alors même que la loi n'était pas encore votée. Et du coup, l'orientation reste une question centrale, parce que les gens qui sont le plus démunis aujourd'hui sont les professeurs principaux, parce que quelqu'un qui est devenu prof il y a une vingtaine d'années, aujourd'hui...
Oui, c'est difficile de se repérer aujourd'hui.
Un prof de maths, il ne sera pas conseillé. Un jeune qui arrive, qui sort du collège, et
allez,
qui lui
fac
dit,
de maths.
Moi je voudrais faire prof de maths, comment on s'y prend? Un prof principal de maths, il sera incapable de dire exactement aux jeunes ce qu'il doit faire pour finir prof de maths.
Encore qu'il doit avoir bien plus complexe comme parcours à,
il y a plus complexe.
À conseiller.
Ouais, en final, c'est un peu comme beaucoup de missions de service public. Enfin, c'est qu'on n'a pas su anticiper non plus ce que vous disiez sur ce boom démographique. Au lieu d'investir sur le nombre de postes et le nombre de places pour accueillir ces étudiants, on a choisi la sélection. Du coup, on vous propose une deuxième pause musicale avec Léo Ferré, c'est extra.
Interprété.
Une robe de cuir comme un fuseau qu'aurait du chien sans le faire exprès.
C'est extra. C'est extra.
Sûrement reconnu les paroles de cet extra, mais peut-être pas la voix de Léo Ferré, puisqu'en fait c'était Jacques Delgeyer. Je ne sais pas si je prononce très bien, mais il m'excusera. C'est toujours l'émission Mode d'emploi animée par la quatrième dimension sur les réformes de l'université. On parlait à l'instant de la loi ERE et de Parcoursup. Et Benjamin, tu voulais nous expliquer un petit peu des réformes qui sont pas dans la loi mais qui sont dans un arrêté assez récent sur les licences, sur l'organisation de
ouais.
des formations.
En gros, les diplômes à l'université sont encadrés nationalement par l'État et donc c'est un arrêté qui s'appelle l'arrêté licence qui encadre comment les licences se déroulent à l'université, comment est-ce que ça se passe.
Le nombre d'heures, l'accompagnement
de cours, comment est-ce qu'on est accompagné effectivement, et comment est-ce que l'évaluation aussi est prise en compte. Et il y a eu des changements tout simplement en fait dans cet arrêté l'été dernier où en gros les rattrapages si on n'arrivait pas à valider mais en fait étaient obligatoires avant à l'université depuis 2011
depuis 2011 seulement avant c'était depuis 2011 seulement
depuis 2011 avant ce n'était pas obligatoire.
D'accord, chaque université pouvait
ça dépendait aussi des universités choix. Et aussi les notes depuis 2011 en gros si on a la moyenne sur notre semestre si nos semestres on a la moyenne sur notre année on valide. C'est-à-dire comme au bac, quoi. On peut s'en sortir sans note éliminatoire, c'est-à-dire même en dessous de 8, on peut réussir. Cet arrêté est modifié et tout simplement les rattrapages peuvent être supprimés aujourd'hui de nos formations. Donc des étudiants qui ne réussiraient pas à valider tout simplement seraient limite contraints de redoubler. Également si... pour la question de la moyenne, d'avoir le fait de valider avec la moyenne des notes, ce sera pas aussi simple. Au final, on va regrouper des matières par bloc, et c'est que dans ces blocs-là que les matières pourront être, faire une moyenne. Si on a la moyenne dans ces blocs-là, on les validera. Et cette cohérence par bloc, même si on a la même licence, même si on suit la même formation que dans une autre université, ces blocs peuvent être différents. On n'a plus du tout la même organisation pour des mêmes formations sur l'ensemble du territoire en France aujourd'hui.
Alors, je rebondis sur ce mot bloc, cette organisation par bloc me fait penser à la réforme actuelle du bac, où on voit qu'il y a un certain nombre de mobilisation, puisqu'on est en pleine période, c'est la fin du bac, d'ailleurs je sais même pas c'était quand le dernier jour, mais du coup peut-être qu'on peut en dire un mot, parce que j'imagine que en tant que acteur de l'université, cette réforme aura forcément un impact sur l'université ou sur ses acteurs. Alors, peut-être Denis.
Mais en fait, il y a un lien, parce que la réforme du bac et du lycée, du coup, le contenu de l'enseignement dans le lycée, qui va se faire aujourd'hui par spécialité, est un lien total avec ce qu'on disait tout à l'heure sur Parcoursup, notamment les attendus dans les universités. Et en fait, le choix des jeunes néo-lycéens au niveau de leur spécialité, va induire des choix au moment de leur vœu pour l'enseignement supérieur. Et en fait, on est dans quelque chose qui fait système, c'est-à-dire que on va enfermer très tôt dès 15 ans des jeunes qui ne connaissent pas encore leur projet mais qui vont pouvoir choisir qu'en fonction des matières qu'ils auront maîtrisées.
Si je me fais l'avocat du diable, ce sera plus simple pour eux pour Parcoursup après.
ils auront beaucoup moins de choix. Tout à fait.
Enfin, si on raisonne à l'envers. Et c'est d'autant plus problématique que finalement on leur demande de se positionner. Alors moi, à un âge finalement où c'est très très compliqué à 15 ans de savoir ce qu'on va faire.
C'est déjà très compliqué à 18 ans quand on a le bac. Fortiori à 15 ans, on a souvent plein d'idées. Il y a des tas de jeunes qui veulent faire pompier ou vétérinaire et qui, en prenant de la maturité. Vont changer, vont définir un projet, et quand ils vont arriver à leur bac, ils vont s'apercevoir que ce projet qui a évolué, ils peuvent pas le faire parce qu'ils ont ils ont pas les bagages.
Peut-être du côté de l'UNEF, je sais pas si cette réforme du bac, si vous la suivez avec
les actions on est UCN. Globalement, on est dans la même analyse de la réforme, hein, où globalement cette réforme, elle adapte le lycée pour Parcoursup. C'est-à-dire qu'on a on met en place une sélection sur les licences, on met en place une évaluation sur des blocs et non plus de manière générale de prise en compte d'un diplôme, et au lycée globalement on prépare les lycéens à rentrer dans des parcours assez finalement tubulaires, on va dire, où on met en avant certaines disciplines, et on restreint vraiment les possibilités au final des jeunes aujourd'hui de s'orienter, de changer d'orientation, changer de voie aussi progressivement, quoi.
Ouais, de toute façon, c'est clair qu'on formate par l'écœurement et le découragement. C'est-à-dire qu'on explique aux jeunes qu'il vaut mieux qu'ils réussissent en prenant des machins qui lui conviennent, mais au bout du compte, il n'a plus aucun choix, parce que chaque fois qu'il fait des choix, il y a des portes qui se ferment. Et à un moment, il se retrouve dans son tube et est incapable d'en sortir. Et c'est là que c'est dramatique, parce que je prends toujours l'exemple d'un jeune qui a fait un bac techno, qui a choisi un BTS parce que c'était la facilité, et qui subitement se dit maintenant j'ai un projet, je veux aller plus loin. Ce jeune-là, il va se retrouver qu'avec des portes fermées. Et c'est là, une fois qu'on est mature et qu'on a choisi son projet, qu'on a envie de se lancer dans la vie, qu'on devrait voir toutes les portes s'ouvrir et avoir accès à l'éducation et à l'enseignement dont on a besoin. C'est tout le contraire qu'on fait.
Et finalement, c'est quoi les contre-propositions? Parce que ça c'est acté. Est-ce que c'est reprendre le système comme il était avant, ou est-ce que du côté de Sud ou de l'UNEF, vous avez finalement déjà réfléchi à une contre-proposition sur ces sujets?
La contre-proposition, c'est que pour nous, comme je disais tout à l'heure, l'éducation, ça n'est pas un coût, mais un investissement. Et que le fait de ne pas investir à la hauteur des besoins, on finira par le payer un jour ou l'autre. Et qu'il vaut mieux mettre en adéquation le système éducatif en fonction de la demande des jeunes. Et aujourd'hui, on a clairement les mouvements de la jeunesse pour le climat qui nous disent, on veut sauver la planète. On a envie de sortir de ce monde capitaliste et du système où on nous sert la croissance comme religion, et on veut avoir l'esprit critique et le bagage qui nous permettent d'inventer le mode de demain. Et ça rentre en écho avec ce que nous dit le ministère. Le ministère régulièrement nous dit on ne connaît pas la moitié des métiers de demain. Et donnons aux jeunes les moyens de les inventer et de nous offrir un avenir, puisque
le ministère de l'enseignement supérieur ou de la transition écologique?
Le ministère de la transition écologique, on n'a pas très très confiance dans ses intentions en tout cas.
C'était une boutade. Pour rebondir, je pense que en effet, là où vous avez raison, c'est que je pense que malgré les universités, ça sera de fait un critère de sélection des jeunes qui vont choisir des universités, ce fameux critère environnemental, et ils ont tout intérêt de toute façon à se positionner là-dessus, peut-être du côté UNEF.
Notre côté, enfin, effectivement, sur la question de contre-proposition. Enfin, l'objectif, c'est que vraiment, en fait, on puisse avoir une jeunesse qui s'émancipe lorsqu'elle va à l'université, lorsqu'en fait, tout au long de son parcours éducatif, on est une jeunesse qui puisse tout simplement se construire, se développer, faire ses choix, mais des fois ses erreurs aussi, mais que le système leur permette justement de ne pas stagner. Et aujourd'hui, ça demande effectivement un investissement qui est important et qui n'est pas à la hauteur aujourd'hui. Et des réformes qui, tout simplement, permettraient ça. Un meilleur accompagnement des jeunes, mais également, un meilleur qualité d'enseignement aussi aujourd'hui. pour que les jeunes, bah oui, on puisse étudier dans de bonnes conditions, qu'on puisse réussir aussi derrière. Et cette qualité de formation-là, cet accompagnement, il est nécessaire aussi parce que derrière, c'est tout ce qui est question d'insertion professionnelle qu'on a pu aborder, etc. Bah oui, ça dépend aussi de la qualité de nos formations. Si on a une formation qui n'est pas en adéquation avec les étudiants, ça peut difficilement fonctionner.
On nous fait signe en studio qu'on a un peu plus de temps que prévu. Peut-être que c'est aussi l'occasion de parler d'actions, d'agenda, de calendrier par rapport à vos organisations. Je ne sais pas si vous avez des actus récentes, chaudes à nous communiquer.
Ben là, il y a la grève pour le brevet qui s'organise après celle du bac. Parce que dans le second degré, du coup premier second degré qui est en ébullition en ce moment.
Décidément, tout est lié quoi.
Tout est lié. On est sur une série de réformes en fait qui font le système Parcoursup à initier en fait un changement de dogme. On a commencé par Parcoursup en se saisissant du fiasco d'APB soi-disant. Et derrière, ben on met tout le système en ordre de marche pour amener à ce qu'on veut. Et en fait, ce qu'on veut, c'est répondre au cahier des charges du monde de la finance. Hein. C'est on a des entrepreneurs, puisqu'on les appelle comme ça aujourd'hui, mais pour nous c'est des grands patrons, des entrepreneurs qui demandent des compétences, des profils types pour répondre à ce qu'a écrit dans son manifeste le MEDEF en 2017, hein, faire de nos jeunes des personnes 100% citoyennes et employables. Le manifeste dont il avait accompagné sa campagne de publicité, il me semble que ça disait « Si l'école faisait son travail, tu aurais du travail », qui avait même mal pris par Jean-Michel Blanquer à l'époque.
Okay. Du coup, on choisira en CE1 d'être trader ou pas ?
Tout à fait, mais on n'aura pas d'autre choix. On n'aura pas d'autre choix. Et effrayant quelque part, c'est qu'on a tous conscience qu'on est dans un système qui creuse les inégalités, qui va piller les ressources de la planète, qui nous pose des problèmes environnementaux, climatiques. Et ce système, plutôt que de le questionner, on le nourrit. On le nourrit et on met tout le système éducatif au service de ce système. Or, dans notre esprit, un service public, il doit être au service de l'intérêt général. Et l'intérêt général, il n'a jamais été fait de la somme d'intérêts privés. C'est le programme Macron qui nous dit que si, l'histoire de la cordée, que si les premiers tirent fort sur la corde, nous, on pense qu'ils risquent de nous étrangler parce que la corde, ils nous l'ont passée au cou. Et veut nous faire croire qu'ils vont nous aider à monter.
On a beaucoup parlé de formation d'enseignement, mais on a à l'université quand même la recherche. Et aujourd'hui, quelle est la situation des liens entre la formation et la recherche ? J'ai cru comprendre que les liens se distendaient un peu au niveau de la licence, qu'on tendait vers, pour schématiser, vraiment plus des enseignants, mais vraiment purement enseignants jusqu'à la licence, et qu'on réservait plus les passerelles vers la recherche à partir du master, et donc le personnel formateur, qui aurait beaucoup moins d'enseignants-chercheurs au niveau licence et qui serait, ce genre de profil serait plutôt réservé aux... Qu'en est-il un peu ?
Disons que il y a des enseignants-chercheurs qui enseignent en licence
C'est toujours le cas, ouais.
Après, effectivement, sur des questions budgétaires, les universités embauchent aussi des vacataires, des contractuels qui sont du coup en CDD et qui ne sont pas des enseignants-chercheurs pour remplir une mission d'enseignement, de formation. Et là, effectivement, on s'éloigne un peu de la recherche. Après, les étudiants peuvent continuer toujours vers la recherche. Il faut qu'ils fassent la licence, le master et ensuite passer par le doctorat. Et là encore, on retrouve les mêmes difficultés à cause du financement. Les doctorants, les jeunes chercheurs, les chercheurs aussi sont dans des situations compliquées. Pour les étudiants, pour les doctorants du coup, qui sont étudiants, c'est difficile de se faire financer sa thèse, puisque il faut vivre à côté. On n'a pas de bourse quand on est doctorant. Et en fait, depuis Depuis quelques années, le nombre de doctorants baisse très fortement parce que les recherches, les thèses ne sont pas financées et financées de manière inégale. En sciences et technologies, par exemple, les thèses sont beaucoup plus facilement financées que dans les sciences humaines, que dans les sciences juridiques, économiques. Et c'est des doctorants qui travaillent à côté de leurs études, de leurs recherches, du coup. Soit font de l'enseignement et ont un financement aussi, soit travaillent comme n'importe quel étudiant qui vient d'arriver à l'université, dans des McDo ou autre, un peu cliché, mais c'est un peu la réalité des choses, et de manière très précaire, pour pouvoir vivre et faire leur recherche.
Ouais. Denis, un dernier mot avant qu'on rende l'antenne.
Là où ça se dessine davantage et où c'est beaucoup plus visible, c'est on a aujourd'hui des projets d'université cible qui sont déposés un peu partout sur le territoire. Et dans ces projets d'université cible, on voit très clairement écrit noir sur blanc qu'on va sur une université à deux vitesses, avec souvent des collégiums, collèges universitaires, voués à ne distribuer que du bac plus 3, et ça s'arrêterait en licence, et des masters d'excellence en recherche, eux plus appuyés sur la recherche. Et on voit très bien se dessiner ce dont on parlait tout à l'heure, toute une frange qui va se retrouver à l'université, mais qui ne sera plus dans le cadre d'un enseignement par la recherche, mais qui va juste obtenir son bac plus 3 et qui pourra certainement aller faire soit caissier dans les grandes surfaces si ça existe toujours, mais qui ne pourra pas viser autre chose.
Alors malheureusement je vois l'heure qui tourne, l'émission touche à sa fin, donc j'en profite pour remercier nos deux invités du soir, donc Denis Orcel, je répète, co-secrétaire de la Fédération Sud Éducation, et Benjamin Potevinck, membre du bureau national de l'UNEF. J'en profite également pour remercier Claude aux manettes, ainsi que Laurent et Corentin pour l'animation de toutes ces émissions de radio durant l'année 2018-2019. Le prochain thème de notre émission animée par la quatrième dimension, on l'a pas encore, ce sera à la rentrée, il faut qu'on travaille sur la grille. Et on vous laisse en chanson, vous souhaite une bonne soirée avec la compagnie Joli Môme et le titre Mathieu.
La lutte en chantant.
Bonne soirée.
Parce qu'il n'arrivait pas à me relire, c'est pour ça.